c'est que selon les Chachamim, non seulement on aura à commémorer la sortie d'Égypte, comme j'ai dit dans la première partie du cours, jusqu'au temps du Messie, mais aussi après. Et c'est là que Benzoma objecte. Alors je lui mets dans la Gemara. Voilà ce que leur dit Benzoma. Et est-ce qu'on aura à mentionner la sortie d'Égypte au temps du Messie? N'est-ce pas qu'il est déjà dit dans le prophète Jérémie, chapitre 23? Voici des jours viennent. Parole de Dieu. Et on ne dira plus Hay Hashem, vivant est Dieu, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais Chai Hashem, vivant et Dieu, Asher et Ela, qui a fait monter, va Asher et Vi, qui a fait venir, et Zerar Bet Israël, la postérité de la maison d'Israël, Meheret Safona, du pays du nord, ou Mikola Aratzot, et de tous les pays, Asher Idartim Sham, où je les aurai exilés. Alors, est-ce que dit Jérémie déjà, au temps de la prophétie du Beit Rishon, il arrivera un temps où la référence de Pessah ne sera plus la sortie d'Égypte, mais la sortie du pays du Nord et de tous les pays. Que c'est le pays du Nord et tous les pays, c'est nous. Ça a commencé en Russie, puis c'est venu de partout. Et donc Jérémie a déjà prévu ce temps-là. Ken? Benzoma objecte. Comment vous pouvez raisonner? Kol yemei chayecha, kol le'avilimot ha-mashiach. J'ai le verset de Jérémie qui dit au Yomot HaMashiach, le récit qu'on fera, c'est plus la sortie d'Égypte, c'est la Shoah. Et vous allez me dire, et pourquoi on ne fait pas encore? On fait déjà, mais on attend le psak. Et donc, ce Kol Yemechayecha, moi Benzoma, je peux l'utiliser pour dire que, pas seulement dans la journée, le matin, au Kriyat Shema, on se rappelle, Anochi Hashem Elokecha Shorot Tzitzicha Melech Mitzrayim, mais le soir aussi. Ça veut dire que je peux baser ma tefila dessus, eh bien, je peux baser ma tefila du soir sur Kriyat Shema, la sortie d'Égypte, comme le matin. Le matin, je me base sur, devant qui je prie, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Le soir, il y avait un problème. Je vais rentrer dans la nuit, est-ce que je vais en sortir? Est-ce que je peux me baser dans ma prière sur celui qui nous a fait sortir d'Égypte? Le soir, je n'ai pas encore mérité la sortie d'Égypte. C'est le matin que je l'ai mérité. Une manière de voir, mais pour vous faire comprendre l'importance du problème. Alors la Gemara va établir. Et qui méritera le monde à venir? Celui qui se base sur la sortie d'Égypte, même dans la prière du soir. C'est-à-dire le soir, on s'engage. Et celui qui est capable de s'engager, de celui-là, on peut espérer qu'il aura le monde à venir. Celui qui dit, tant que je ne vois pas l'événement, je ne m'engage pas, celui-là, on ne sait pas ce qu'il deviendra. Mais celui qui, alors qu'on est à la veille, vous voyez, minuit la sortie d'Égypte, Moïse vient et dit à minuit. Alors, le peuple se divise en deux. Ceux qui vont attendre le lendemain matin, à minuit est passé, on sort. Et ceux qui vont dire, à minuit va arriver, on sort. Ceux qui ont dit, on va attendre le lendemain matin, sont restés en Égypte. Et ceux qui ont dit, Moïse a dit, on croit, on avance. Vous voyez la différence d'atmosphère des deux moments, le matin et le soir. Vous voyez, c'est clair? Bon. Et la halakha est comme cette Gemara qui dit que le soir aussi, on fait le lien, smicha de Geoula Litfila, vous vous rappelez? On joint la Geoula et la Tfila. Alors que la Geoula n'est sûre qu'au matin, même le soir, on s'engage. Et, est-ce que c'est clair? Bon. Alors les Chachamim vont répondre à Benzoma. On n'a pas voulu dire qu'on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. On a voulu dire que le récit important sera le récit de la fin des temps. Et on rappellera aussi la sortie d'Égypte comme préface. Vous voyez dans quel stade nous sommes? Est-ce que c'est clair? Alors, ceci vous le rattachez à ce qu'on a vu tout à l'heure, que nous avons à commémorer la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'elle réussisse. Mais quand est-ce qu'elle réussira? Comme dit Jérémie, quand ce sera la dernière sortie d'exil, alors le point de départ qui était la sortie d'Égypte aura réussi. Est-ce que c'est clair? Et à ce moment-là, on racontera quoi? La dernière sortie de l'exil et la sortie d'Égypte, on ne parlera plus? Oui, préface. Mitechila, Abde, Abdazaraya, Otenum, ça c'était avant Abraham. Okay? Alors on dira Mitechila, au début, il y a longtemps, on est sorti d'Égypte. Et maintenant, voilà, quel est l'événement qui est commémoré dans le Pessah? La sortie d'Égypte. Enfin, mais celle-là. Ça y est, c'est clair? Et la Gemara continue. Et elle dit, et ne croyez pas que c'est tout, parce qu'il va y avoir encore d'autres événements qui feront que même cette dernière sortie, on l'aura oublié avec la sortie d'Égypte. Et on sera occupé à commémorer ce qui se passera après. Vous avez eu le problème. Et il donne la Gemara donne une explication que je vais vous lire. L'Ema d'Abardomé, à quoi ressemble cette chose-là? La dame, Shayam a l'air baderech, un homme qui marchait en chemin. Ou Pagar Bozev, il a rencontré un loup. Venitsal Mimenu, il a été sauvé de lui. Vayam et sa père, Veolech Maasezev, alors il racontait l'histoire du loup. Pagar Boari, il a rencontré un lion. Venitsal Mimenu, il a été sauvé de lui. Vayam et sa père, Veolech Maasehari, alors il racontait l'histoire du lion. Entre-temps, il disait, il y avait d'abord le loup, mais voilà ce qui m'est arrivé avec le lion. Comme ça lui est arrivé après, c'est plus important. Ça y est, c'est clair. Pagar bo nachash, c'est pas fini. Il a rencontré encore un serpent. Venitsal Mimenu, il a été sauvé de lui. Shachach maase shneim. Il a oublié les actes des deux, c'est-à-dire le loup et le lion. Vayam esaper veolech maase nachash. Et il racontait l'histoire, mais maase en hébreu, c'est-à-dire le maase, le fait du serpent. Afkar Israël, de même Israël. Tsarot acharonot, les derniers malheurs, mais chaque chot et tarishonot font oublier les premiers. Vous avez suivi le... Bon, je vais vous poser une question de ces vers de Pessah, puisqu'on parle de ça. C'est très contradictoire avec toute la Mishnah. Regardez la dernière phrase. Les derniers malheurs font oublier les premiers. Mais on a dit d'après, il ne faut pas oublier. Alors qu'est-ce qu'il me dit, il faut oublier? Vous avez compris ma question? Réfléchissez bien.
Quand ce sera les derniers
Non. Regardez ce qui se passe. Au temps du Messie, on parlera de ce que le Messie a fait pour nous. Il nous a sortis de Russie et d'ailleurs. Bon. Mais alors la sortie d'Égypte, on rappellera. On rappellera, mais comme préface. Et après, ne croyez pas que le temps du Messie, c'est fini. Après, il y a d'autres choses. Et on oubliera même le temps du Messie. Puisque les choses les plus urgentes, c'est les dernières. Bon. Et alors, on nous raconte une histoire de quelqu'un qui avait rencontré, vous voyez, les trois étapes, qui avait rencontré un loup, ensuite un lion, ensuite un serpent. Okay. Et là, la Gemara, je ne vous ai pas traduit, mais la Gemara explique. Les premières choses de ces trois temps, c'est la sortie d'Égypte. Les deuxièmes, c'est l'arrivée du Messie. Les troisièmes, c'est la guerre de Gog et Magog. Quand la guerre de Gog et Magog viendra, même les miracles de Tzahal, on les oubliera. Et il fait bien attention, c'est pas évident que la guerre de Magog n'est pas déjà venue. C'est un autre sujet. Peut-être qu'elle est déjà venue. Okay. C'est pas parce qu'il se passe des choses au Liban, comme je vous avais dit, que c'est grave. Et alors, n'ayez pas trop de cauchemars. Un petit peu, ça aide à vivre, mais trop, c'est trop. Et alors, vous vous rappelez que je vous avais dit ça, non? Et alors, la Gemara nous dit, ainsi Israël, les tsarot dernières font oublier les tsarot premières. Mais tout ton exposé, c'était de me dire, on n'oubliera pas quand même. Quelle est la réponse? Ah, je vous la donne. Si vous ne l'avez pas en tête, je vous la donne. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Les derniers malheurs font oublier les premiers malheurs. Mais la dernière délivrance ne fait pas oublier la première délivrance. Les miracles, on n'oublie pas. Les malheurs, on oubliera. Et voyez la différence. Mais c'est clair. Et je crois que c'est très important à comprendre ça. En fin de compte, moi je peux dire, j'ai été de la dernière génération qui se rappelait des malheurs de l'Égypte. On se rappelait des malheurs, et on les identifiait. Et on vivait ça pendant Pessah. Qu'est-ce que les Égyptiens ont fait aux Hébreux? Et puis, on se rappelait la délivrance. Et puis arrive une génération qui a connu des malheurs pires que les malheurs d'Égypte. La génération de la Shoah. Alors ceux qui ont vécu les malheurs de la génération de la Shoah, ils n'ont rien de disponible dans leur cœur pour se rappeler des malheurs de l'Égypte. Parce que c'est pire. Vous voyez le problème? Mais ça ne veut pas dire qu'on oubliera les miracles de l'Égypte. Les malheurs, oui, mais pas les miracles. L'Inquisition, ça s'est toujours rattaché à Tisha B'Av, jamais à Pessah. L'Inquisition, c'est la suite de la destruction du Temple. Et puis, du point de vue de la Shoah, l'Inquisition, c'est une petite répétition générale. Mais la catastrophe, c'est la Shoah. Et c'est de cette catastrophe que nous avons été sauvés. Et cette Shoah a commencé avec les Russes, pas avec les Allemands. Enfin, on a étudié cela. Or, c'est exactement ce que dit Jérémie. Ça viendra du pays du Nord et de tous les autres pays. Si vous étudiez bien l'histoire du sionisme, vous verrez par vous-même que ça a commencé en Russie, et après le reste, et après les autres. Et ça continue comme ça, c'est pas fini. Bon. Alors, avec le Liban, on l'a échappé belle, puisque c'est entre eux que ça se passe. On a du scoop. La suite, je sais pas. Bon. Alors, voilà donc pour cette question. Qu'est-ce que tu veux me faire dire la suite? Ça, c'est pas une question à toi. Normalement, c'est Abraham qui aurait dû poser la question. Hein? Il t'a soufflé. qu'est-ce que tu voulais dire d'ailleurs, Abraham, tout à l'heure?
Non, je veux pas faire. Non, c'est qu'on avait vu quand on avait étudié ça, pas dans on avait vu sur Orkhalash, que le peuple voyait que c'était la sortie, que c'était la Olamada.
Attends, rappelle-moi exactement. Orkhalash, c'était la nuit pour Moshe Rabbeinu?
Oui, c'est ça.
Alors rappelle-moi de quoi il s'agit.
D'après ce que j'avais compris, que normalement, on pensait que, étant donné que la dimension était agitée dans le rite, c'était le moment que c'était. La sortie du
15 Nissan. On a parlé du 15 Nissan au moment de...
Oui. On a parlé de la sortie de Pessah, ça devait on pensait que c'était l'arrivée, le moment venu de la...
Bon, c'est vrai d'ailleurs en soi, je ne me rappelle pas à quel moment, mais c'était une parenthèse dans ce cours-là. C'est sûr. C'est sûr, les Midrashim parlent que la sortie d'Égypte aurait pu être le passage dans Olam Haba. Les Midrashim décrivent une transfiguration du monde qui commence. Tous les malades guérissent, les fours deviennent normaux, tout s'arrange. Et leur Olam devient un vrai Olam, c'est ça Olam Haba. La faute du Vaudor a cassé ça. Mais ça, vous aurez l'occasion d'étudier ces Midrashim sans problème.
Oui. Je me demandais pourquoi on disait Dor Vador, pourquoi il fallait l'enseigner à ses enfants si normalement on voit le déroulement de l'histoire, on était parti. Pas pour des exils et pour le rappeler.
Non, mais justement, tu as ta réponse dans ta question. C'est précisément parce que ça a été un point de départ irréversible, mais non accompli, qu'il faut le rappeler, qu'il faut le revivre jusqu'au moment où ce sera accompli. C'est-à-dire, si l'humanité avait mérité. Parce que, fais bien attention, je ne sais pas si nous l'avons étudié cette année, chaque fois qu'on dit d'or une génération, ce n'est pas seulement la génération d'Israël, c'est la génération de l'humanité entière. Si l'humanité avait mérité, la civilisation égyptienne aurait été la civilisation humaine achevée, et la sortie d'Égypte aurait été le passage au monde à venir, les Égyptiens y compris. D'ailleurs, ils ont cru qu'ils nous ont poursuivis dans le passage de la mer Rouge. Mais c'est nous qui les avons attirés pour qu'ils passent par la mer Rouge comme nous. Parce que la fin de la délivrance, c'est le passage par les eaux. C'est être sauvé des eaux. Or, nous, on a mérité, pas eux.
Pourquoi ça s'est enfermé sur eux avant la faute?
Justement, ils n'ont pas mérité. Bon, alors tout cela, c'est relié, le démérite et le mérite réciproque. Et en fin de compte, tout ça, ça va se dévoiler à la faute du Vaudor. Mais dès le passage de la mer Rouge et le fait que les Égyptiens ont été engloutis, on savait qu'on avait rendez-vous avec une autre civilisation pour réussir. Parce qu'avec cela, c'était chletz, échoué. Regardez ce que... Donnez-moi le chapitre de... Attendez, prenez dans Shmos le chapitre... Je vais le dire tout de suite. À la fin du chapitre 13. Non, au début du chapitre 14, je vais vous dire tout de suite le verset. Une minute. Allez, prenez le verset 13 du chapitre 14. Enchaînez. Non, mais ce que j'ai ajouté là est important à comprendre. C'est que si la génération des Hébreux de la sortie d'Égypte méritait le monde à venir, c'est la génération de l'humanité tout entière, les Égyptiens y compris. Or, ils n'ont pas mérité, on n'a pas mérité. Okay? Mais ne croyez pas qu'Israël est sauvé tout seul. Si on devait être sauvé tout seul, il y a longtemps qu'on l'aurait été. Abraham, Isaac, Jacob, c'est fini. On attend les autres. Et par conséquent, génération d'or, ça veut dire l'humanité entière. C'est clair? Alors, vous avez pris le verset 13 du chapitre 14 dans Shmuel, Ken, dans Meshalar. Voyons Moshe et l'Aram. Et Moïse dit au peuple, Altiraou, n'ayez pas peur. Ityatsu, quelle est la situation? Il y a la mer devant, les Égyptiens derrière. Ken? Ityatsu, tenez-vous là, ourou, et regardez, et vous verrez, et Yeshurat Hashem, le salut de Dieu, Asher Yahaselachem, qui vous fera aujourd'hui, Hayom, qui Asher Eitem et Mitzrayim Hayom, car comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, Loto Sifu Lirotam Od Adolam, vous ne les reverrez plus jusqu'à la fin des temps. On les a revus, on est à la fin des temps. Je pense que c'est clair. Non, c'est écrit, non? Ça y est, le petit train est arrivé. On les a revus comme ça. La seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes souliers. Vous comprenez de quoi je parle? À la campagne du Sinaï, leurs souliers étaient trop lourds. Ils les ont laissés dans le désert. Ils ont couru pieds nus. Eh bien, au temps des Égyptiens de l'Antiquité, ce n'étaient pas les mêmes sandales. Mais à part ça, c'était les mêmes Égyptiens. Voilà ce que dit le verset. C'est clair? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a deux fêtes à Pessah. Le premier soir, c'est la sortie d'Égypte. Le septième soir, c'est le passage de la mer Rouge. Et le passage de la mer Rouge, c'est 10 fois plus important. Vous verrez à la fin de la Gada de Pessah vous-même, vous verrez que ceux qui n'arriveront pas à l'étudier maintenant, mais vous avez toute la vie. Pressez-vous, parce que le Liban, tous les grands Tanaïm disent, et s'il y a eu 10 plaies en Égypte, alors c'est que sur la mer, il y avait 50. S'il y en avait 50, il y avait 250. Vous vous rappelez, une sorte d'hypertrophie. Ce qui se passe au passage de la mer Rouge, c'est plus important que la sortie d'Égypte elle-même. Okay? Le Maharal a bien expliqué cela. Il dit, à la sortie d'Égypte, nous avons eu expérience qu'on peut être sauvé des hommes. Bon, au passage de la mer Rouge, on a eu expérience qu'on peut être sauvé même des lois de la nature. Et alors, il dit, il y a une différence entre ces deux saluts-là. Ces deux saluts différents. Par rapport aux hommes, d'un côté c'est pire, d'un côté c'est plus facile. Pourquoi? Par rapport aux hommes, c'est pire, parce que vous avez une stratégie de défense, il invente une stratégie d'attaque. Okay? L'homme est libre. Mais puisqu'il est libre, il peut finalement avoir pitié. Donc, d'un côté, c'est plus grave, de l'autre côté, c'est moins grave. Par rapport aux forces de la nature, d'un côté, c'est plus grave. La force de la nature est impassible. On ne discute pas avec elle. Elle n'aura jamais pitié. Seulement, si je la connais, je sais comment elle fonctionne, je peux tourner. Je peux m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas clair?
Elle ne peut pas inventer une défense.
Exactement. Elle n'est pas intelligente. Elle est absolue, mais aveugle. Okay? Tandis que l'homme n'est pas aveugle. Mais précisément, comme il n'est pas aveugle, donc il est dangereux, puisqu'il n'est pas aveugle. Même un aveugle est dangereux, hein, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais comme il est libre, donc il peut... C'est-à-dire, la relation de stratégie de salut vis-à-vis de l'asservissement par l'homme et vis-à-vis de l'asservissement par les forces de la nature, c'est pas la même. Et ce qui s'est passé au passage de la mer Rouge, c'est encore plus important que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte elle-même. C'est pourquoi il y a deux fêtes. Et c'est clair. Alors, ce que je voulais indiquer, c'est ceci. C'est que, en sortant d'Égypte, les Hébreux ont emporté les valeurs de l'Égypte. Mais voilà que Dieu, c'est ses créatures à lui. Et Dieu a voulu que les Égyptiens aussi soient sauvés. Alors, il s'est arrangé pour les faire attirer à la mer Rouge. Si les Égyptiens n'avaient pas été méchants, ils auraient traversé la mer avec nous, on serait retrouvés de l'autre côté, cousin-cousin, et on recommence un autre monde. On est sorti de l'asservissement d'avant. Non, ils étaient méchants. Alors ils sont restés dans la mer. Et nous, on savait qu'il fallait rendez-vous. Regardez-les bien, comme vous les avez vus aujourd'hui, vous les avez vus avant la fin des temps. Et regardez que le plus grand affrontement, ça y est, c'est clair. Une minute, j'ajoute. Le plus grand affrontement que nous, les Hébreux, nous avons eu avec l'humanité entière de cette civilisation, finalement, ça s'est résolu sur une bataille avec l'Égypte. Les autres aussi, mais c'était l'Égypte, le gros morceau. Okay, ça ne veut pas dire que c'est fini. Moi, je ne sais pas si la paix de Camp David, c'est la paix ou c'est pas la paix, je ne sais pas. Okay, mais en tout cas, il est bien clair que ce verset s'est accompli. Alors, qu'est-ce que vous
dites ? On a l'impression que, comme vous les avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. C'est justement, on les a revus, mais c'est la situation strictement inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui nous trouvaient après, en quelque sorte, c'est un petit peu nous qui leur courions après.
Étudie bien les guerres d'Israël. Nous avons toujours été attaqués par les Égyptiens. Okay. Même quand on les a tirés dans un piège, c'est eux qui attaquaient. Mais. Non, mais c'est vrai. Mais. Et ce que dit le verset ici, le Midrash le précise. Regardez-les bien comme vous allez les voir morts sur la mer. Comme vous allez les voir comme ça, vous ne les reverrez plus que jusqu'à la fin des temps. On les a revus dans la même manière. C'est-à-dire vraiment l'armée égyptienne en déroute et repassant le canal. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Ça, personne n'en sait rien. Ça dépend du mérite de la génération entière. Mais en tout cas, il est bien évident qu'on avait un rendez-vous à la fin de cet exil dont parlait Jérémie, que reprend la Gomara. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, mais il faut que vous compreniez bien, donc il y a une typologie humaine qui est escalée, qu'on étudie d'autre part, c'est qu'en fin de compte, l'humanité entière s'est jetée sur Israël. Mais c'est avec l'Égypte qu'on avait affaire. C'est quand même clair. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Et il est bien évident que l'armée égyptienne, pas plus que l'armée syrienne, pas plus que l'armée irakienne, pas plus que l'armée que l'armée jordanienne, n'existe pas par elle-même, s'il n'y a pas les Russes et les Américains derrière. Je pense que vous comprenez que ce qu'on a en face est Edom, c'est la civilisation occidentale tout entière, par armée arabe interposée. Alors c'est ce rendez-vous-là auquel il est fait allusion. Je vais vous donner une jolie gématria pour vous consoler un peu. Il y a un verset qui dit que Dieu est... que Dieu est mefotzet. Comment on écrit le tzadé final, vous savez?
Oui, en haut.
Oui, en haut. Ça fait rien. Voilà, mais vous êtes des slimes. C'est là, c'est un rocher. Ça meurt la médaille. Vous connaissez, c'est là, un rocher. Alors, que Dieu est, mais vous êtes, c'est comme de la dynamite qui fait éclater les rochers. Et il faut être tout. Tatsa, une bombe. Alors, c'est là, c'est Souria, Lebanon, Irak, Yarden, Mitzrayim.
Tous ensemble.
Syria, Lebanon, Irak, Yarden, Mitzrayim.
Voilà.
Samer, Syria, Lebanon, Lebanon, le Liban, Aïn, Irak, Yud, Yarden et même Mitzrayim. On les a tous autour de nous. Ça, quand tu seras à l'armée, tu demanderas. Faut pas trop t'alarmer. Non mais faites attention, c'est pas de ce verset qu'on sait qu'on sera victorieux. Bon. Bien, alors ça c'est vraiment une question qu'on a étudiée. Vous avez compris de quoi il s'agit? La différence entre Pessah de Mitzrayim et Pessah Shel Dorot. Pessah Shel Dorot sera commémoré avec comme référence la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée du Messie. Ensuite, on parlera de la sortie d'Égypte, mais le Seder de Pessah sera organisé autour de l'événement du salut messianique. Et la Gemara continue après. Bon, quel est le problème? C'est pas qu'on oublie les premiers bienfaits de l'histoire, mais on oubliera les premières tzarotes. Voilà, grosso modo. Et alors, il est évident que si il y a une coupure entre les générations dans le récit, eh bien, ça ne peut pas être reconstitué, d'où le désarroi dans le peuple juif quand il y a coupure entre les générations. Vous avez compris pourquoi le rite de Pessah va tourner autour du dialogue entre les parents et les enfants. Bon, ça vous rattachez aux quatre questions des quatre enfants. Est-ce qu'il y a une autre question? Il nous reste 10 minutes. Peut-être, alors, prenez le premier verset de la Chodesh HaZerachem. On va étudier rapidement cela. J'ai pas entendu, répète. C'est par allusion, parce qu'on a repris les versets. Lis le texte et je vais te dire où Ishmael t'a cité. Varbe Zaro. Mitechila. עובדי עבוד הזרה היו עבודנו במצרים. עובדי כוכבים
היו עבודנו.
עובדי כוכבים. עובדי עבוד הזרה. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה ארץ ישראל, מקום. כן? שנאמר.
ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל,
בעבר הנהר ישבו. Be'ever Anahar, c'est l'Euphrate. Mais Ever Anahar, c'était la famille d'Abraham en Mésopotamie. Okay? Yashu Avotechem Me'olam, okay? Terah, Va Avinahor, Elohim Acherim. Je vous ai donné la règle. Quand c'est Kadosh, on dit Elohim. Quand c'est pas Kadosh, on dit Elohim. Continue. Elohim Acherim. Ensuite.
מעבר הנהר,
ועולה
אותו
בכל הארץ כנען. בכל הארץ
כנען.
והרבה את זרעו. שמולטיפליה סא פוסטריטה סא אלוזיון הישמעאל. כן? והרבה את זרעו. אנסווית. ויתן לו את יצחק. ויתן
לו את יצחק.
אנסווית.
ויתן ליצחק את יעקב ואת
עשיו. ויתן.
ויתן לעשיו
את ארצי,
לרשת אותו,
ויעקב ובניו ירדו מצרים. בואו, לא רק אלה תם כי הנושאת משנה, כי התרז אימפורטנט, זה סי. לאקזיל את הנושא אברהם, אין רלציון את הפרומס דארץ ישראל, פרמייר פוינט. כן? אלא אנחנו נפוזי לקסטיון, ופורקו לאקזיל נקומנס פא אבק אברהם? ופורקו לאקזיל נקומנס פא אבק איזק? דה פריז. בואו, מבואו מתנדה דמינים. בואו. Alors, vous voyez, le problème, c'est que à Abraham déjà est annoncé et l'éventualité de l'exil dans l'histoire de sa descendance. Et c'est toujours relié à la promesse que sa descendance sera le pays de Canaan, Eretz Israël. Premier point que vous allez bien retenir. Alors, on a posé la question, et pourquoi l'exil ne commence pas avec Abraham? Pourquoi il ne commence pas avec Isaac? Pourquoi il ne commence qu'avec Jacob? La réponse, elle est très importante. Si l'exil avait commencé avec Abraham, Ishmael aurait été inclus dans la promesse de la terre, puisqu'Ishmael aurait participé à l'exil. Si l'exil avait commencé à Isaac, Ésaü aurait été impliqué dans la promesse de la terre, puisque Ésaü aurait été impliqué dans l'exil. L'exil ne commence qu'avec Jacob, parce que seule la descendance de Jacob a le droit à Eretz Israël. Et une minute, je vais finir d'expliquer. Mais voilà le thème général. Okay? Est-ce que c'est clair? Bon. Le fait que tant Ishmael que Ésaü la réclament, ça vient de l'histoire antérieure où nous sommes en rivalité au niveau d'Abraham et au niveau d'Isaac. Mais vous retiendrez, c'est important à retenir, quand c'est Ésaü qui la réclame, ça ne fait pas sérieux. Quand c'est Ishmael qui la réclame, ça fait beaucoup plus sérieux. Pourquoi? Je vais vous dire la réponse de la Torah, et ça va peut-être vous étonner, parce qu'Ishmael est circoncis. Il n'est pas circoncis de la même manière que nous, mais il est circoncis quand même. Et donc, le Zohar dit, alors qu'Ésaü n'est pas circoncis. Donc, ils n'ont eu pas de chance. Okay? Le royaume des croisés, Batol Mbuta. Ils peuvent rester là, en pèlerinage, mais pas plus. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? Si l'Église réclame Eretz Israël, on sait très bien que c'est une façon de parler.
c'est pas sérieux. Mais quand c'est Ishmaël qui réclame Eretz Israël, là ça devient sérieux. Vous remarquez le... Alors le Zohar explique ça de la manière suivante. C'est qu'étant donné que Ishmaël est circoncis, c'est-à-dire qu'il est relié à Abraham d'une manière, d'une certaine manière, sa réclamation de l'héritage d'Abraham a sur quoi se baser. Et le Zohar explique, il n'a pas la même circoncision qu'Israël. Et donc il a droit à Eretz Israël quand Israël n'est pas là. Et vous remarquerez bien, et c'est clair. Et vous voyez donc la responsabilité des Juifs de la Galoute. Parce que c'est quand Israël n'est pas là qu'Ishmaël a droit. Et au niveau simple de la propagande politique, c'est exactement ce qu'ils disent. La preuve que ce pays est à nous et pas aux Juifs, c'est que les Juifs n'en veulent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez le problème. Et alors, seulement le Zohar ajoute, de la même manière que la circoncision d'Ishmaël est imparfaite, de la même manière, leur lien à Eretz Israël est imparfait. Et puis, il continue que quand Israël reviendra dans son pays, c'est Ishmaël qui déclenchera le monde entier contre Israël. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. En fin de compte, on connaît la suite. Et c'est pas pour rien qu'on est là. Mais à quel prix, ça, c'est un autre problème. Et ce que je voulais ajouter, c'est ceci. C'est que... oui, tant Ishmaël que Esav ont voyagé partout, mais toujours en conquérant. Ils n'ont jamais connu qu'est-ce que c'est l'exil. C'est clair ? Vous voyez quel est le problème ? Réfléchissez bien à ça. Il n'y a que les Juifs qui ont pris sur eux la situation de l'exil. Par conséquent, il n'y a que, je veux dire, les Juifs, les descendants de Jacob. Par conséquent, il n'y a que les descendants de Jacob qui ont vraiment droit à Eretz Israël d'après l'économie de, l'enseignement de la Torah. Peut-être qu'il y a un cas particulier maintenant. La seule situation d'exil d'Ishmaël, c'est les Palestiniens en Eretz Israël. C'est la première fois que des descendants d'Ishmaël sont en exil. Et chez qui ? Chez les Juifs. Ils ont un exil doré, comme vous savez. Mais c'est l'exil quand même. On souhaite à personne l'exil, même pas celui-là, qui rentre chez eux. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être que si un jour, on pourra se parler, ce sera avec Dafka, les habitants du pays. C'est-à-dire les descendants d'Ishmaël qui habitent Israël. Parce que eux finiront par savoir qu'est-ce que c'est que l'exil. Ils sont privilégiés. L'exil en Israël, c'est pas rien. C'est un exil doré. Et comme je vous dis. Et alors, je voudrais compléter en vous donnant une explication sur les quatre enfants de la Haggadah. Mais je reviens sur le principe, je crois que je vous l'ai cité une fois, réfléchissez bien à ça. Ça vous servira dans votre cours de sionisme. C'est que Ishmaël a voyagé partout, mais jamais, jamais, il n'a suscité l'exil. Ils ont voyagé partout en conquérant. Et actuellement, ils sont en train de reconquérir le monde, comme vous le savez, par les pétrodollars. Okay? Et partout où ils sont chez eux. Okay? Et tout le monde a plein ventre. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Okay? Et de la même manière, les Romains, enfin, Esaü, Edom, ils ont voyagé partout, mais en missionnaire, en conquérant. Exil, ils ne savent pas ce que c'est. Et on a donné l'enseignement suivant à propos des quatre enfants de Pessah. Dans quelle famille il y a quatre enfants comme ça ? Un Rachar, un Hacham, un Rachar, un Tam et un Chenou Yadir Lichou. Dans quelle famille juive on trouve ça ? La réponse est la famille d'Abraham. Suivez bien. Dans la famille d'Abraham, il y a premièrement Isaac, il y a Hacham. Quelle est sa question ? Il y a un sacrifice à faire, dis-moi comment. Sacrifice d'Isaac. Oui, la question du Hacham, c'est Yitzhak. La question du Rachar, c'est Esav. J'espère que vous avez déjà lu les textes de l'histoire d'Esaü, tout ça, quand il dit Ineni olaf lamut, la mali bochora, il refuse l'identité. Okay? C'est le Rachar. Qu'est-ce que vous faites ? J'en suis pas. Bon. La question du Tam, c'est Jacob. Mais faites bien attention, je dirais deux choses là-dessus. De Jacob, la Torah dit qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim. Vous vous rappelez ? Un homme simple. Mais bien attention, ce n'est pas un simple d'esprit. Il n'y a pas écrit qu'il était Tam. Il y a écrit qu'il est Ishtam. Il est capable d'être Ish, mais il veut être Tam. Vous comprenez en hébreu ? Son frère est appelé Ish Tsaïd, un homme de chasse. Jacob, c'est celui qui pourrait être Esaü, mais il ne veut pas. Il est riche, comme Ésaü, mais il est tam, ce qu'Ésaü ne veut pas. Vous voyez la différence ? C'est pas stam tam, c'est ish tam. C'est la première. Et d'autre part, tam, ça n'a jamais voulu dire simple d'esprit. Hein. Tam, c'est la simplicité de la vérité. Tmimut. Tmimut en hébreu, tamim, intègre. Bon, tam, ça veut dire les niveaux inférieurs, si vous voulez. Bon, mais c'est la naïveté de la moralité. Il faut être très grand pour être capable d'être tam. Sinon, c'est tout simplement qu'on est un débile, c'est autre chose. Débile, ça existe. Comment on dit en français ? Débile, hein ? Ou idiot dans le sens étymologique. Hein ? C'est pas ça, tam. Tam, c'est la simplicité profonde, naïve, mais dans le sens positif, moral. Ça, c'est Jacob. Et le chénon yodia lichol, c'est Ishmael. Celui qui ne s'est pas interrogé, c'est Ishmael. Pourquoi ? On a remarqué une chose. Tout le monde parle dans la Bible, sauf Ishmael. Vous allez relire toute la Bible, vous verrez, tout le monde parle, sauf Ishmael. Il n'a jamais voulu nous parler. Et même le Satan parle dans la Bible, pas Ishmael. Vous avez remarqué cela, okay? Nous sommes dans un temps où Ishmael commence à nous parler. Et encore, par Égyptiens interposés. Les Égyptiens, ce n'est pas des Arabes, ce n'est pas des Ismaélites. Okay? Par exemple, il y a, à mon dernier voyage, je ne sais plus lequel, j'étais à un congrès international des religions à Paris, et il y avait des musulmans. Mais quand ils ont appris qu'il y avait un rabbin, en plus de Jérusalem, les Arabes n'ont pas voulu venir. Alors sont venus des Indonésiens, des Pakistanais, des musulmans, mais pas les Arabes. Ça veut dire que ça va jusque-là. Et là, ça veut dire vraiment, on n'existe pas pour eux, donc ils peuvent pas nous parler. On ne parle pas à quelqu'un qui n'existe pas. Bon, mais ça commence. Okay. Le jour où le roi de l'Arabie saoudite commencera, et c'est peut-être pas mal longtemps, je ne sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah ? La Mishnah dit ceci. Vecheno yoder lisholat petachlo. Et celui qui ne s'est pas interrogé, toi, tu commences à le provoquer, à poser la question. Et Dieu sait qu'on fait tout ce qu'on peut pour les amener à parler. Okay. Et la Mishnah demande, quand Yachol me Rosh Chodesh, peut-être depuis le Rosh Chodesh, dit non. Le verset dit Baravur Ze. Vous vous rappelez de la Mishnah? Baravur Ze, Yachol mi Berodium, peut-être quand il fait encore jour, la veille de Pessah, non. Baravur Ze. Et là, Beshaa, Shematza, Omaro, Munachim, Nefanecha. C'est-à-dire quand tu verras la Matza et le Maro, tu peux lui désigner, ça c'est la Matza, ça c'est le Maro. Alors là seulement tu peux commencer à lui parler. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que dans le cas de l'enfant, qui de lui-même ne s'interrogera pas. Il ne pourra comprendre ce que tu vas lui expliquer que quand les signes seront là, quand la matza et le maro arriveront, alors là il comprendra de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est la matza et le maro ? C'est les signes de l'exil et de la fin de l'exil. Alors dans l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, quand Ishmaël commencera à comprendre qu'est-ce que c'est l'exil, peut-être qu'il commencera à comprendre qu'est-ce que c'est l'histoire d'Israël. Alors il commencera à parler. Et où ça se passe en Eretz Israël ? Vous avez compris le problème. En plus que, bon, ça c'est un petit point d'histoire, une coïncidence, mais la Mishnah dit « At petachlost au féminin ». Et tout le monde sait que c'est Golda Meir qui a commencé le dialogue. Okay. Il fallait encore une femme. Okay. Et c'est clair, « Beshenu yodea lishol » pourquoi il n'y a pas « Ata petachlost ». « Petach » c'est au masculin, le verbe. Parce que cette femme-là, c'était un grand homme. Mais hâte et non pas hâte. Alors vous avez de doctes grammairiens qui disent c'est une forme archaïque. Donc, Golda Meir, ce n'était pas une forme archaïque. Mais vous connaissez l'histoire. Elle s'est déguisée en bédouin. Elle est allée de l'autre côté du Jourdain pour parler au roi Abdallah. Qui a été tué parce qu'il a parlé à une femme juive, vous ne vous rendez pas compte. Non, mais l'explication officielle, c'était « Nous, on ne parle pas aux femmes. » Mais la vérité, c'était qu'ils ne parlent pas aux Juifs. Bon. Alors, voilà donc ce que je veux dire à propos de ta Mishnah. C'est que nous sommes en compétition, bien entendu, mais la Mishnah nous montre exactement la sélection d'identité. Okay? Ishmaël sort de la famille d'Abraham, mais pas d'Abraham vraiment, d'Abraham au stade avant la mutation, etc. Et par conséquent, ils ne participeront pas de la Redet Mitzrayima descendue en Égypte. Ça c'est Yaakov Ubanav Yardou Mitzrayima. Alors c'est Yaakov Ubanav qui descendent en Égypte parce que c'est eux que concerne la sortie d'Égypte, la Géoula et Eret Israël. Ça y est, c'est clair?
Est-ce que c'est les quatre personnalités que présentent la Gada, est-ce qu'elles ont rapport avec les quatre questions?
Nahol, non seulement elles ont rapport avec les quatre questions, elles ont rapport avec les quatre verres qu'on boit, tous ces quatre qui sont cinq. Ken, qu'est-ce que vous demandez? Lui, pas eux. Ishmaël n'a jamais habité le pays de Canaan. Quand vous vous rappelez, il y a un épisode que vous n'avez pas encore étudié avec moi, c'est quand Agar s'est révolté contre Sarah, on l'a envoyé au désert, l'Arabie saoudite. Son paysage, c'est le désert de Paran. Vous apprendrez à identifier tout cela. Et on a dit, les Arabes sont fils du désert. C'est faux, ils sont pères du désert. Là où ils arrivent, il y a le désert. Et dès qu'il s'assoit quelque part, on creuse en dessous, il y a du pétrole. Okay, vous avez remarqué. Et là, ça, c'est la bénédiction d'Abraham qu'ils ont reçue. C'est notre problème. Et là, de la même manière, Ésaü a habité le pays de Séir, qui n'est pas Eretz Israël. C'est clair. À une sélection. D'accord ? C'est-à-dire que on comprend d'où vient la rivalité, la prétention. Mais là, je voulais que vous réfléchissiez bien à cette règle. C'est très important pour comprendre l'histoire juive. Seuls ceux qui ont expérimenté ce qu'est la galoute sont donnés à la Géoula. C'est clair ? Je pense que vous comprenez cela. Les Tzabarim, eh bien, ils ont intégré la galoute dans la Géoula. Justement, c'est les Tzabarim qui, dans leur Pessah, racontent leur histoire et pas celle des ancêtres. Vous allez à la Shomer HaTzair, le sort de Pessah, on vous parle de cette Gemara-là. Ils le savent pas, okay, mais ils réalisent cette Gemara. Ils sont un peu anticipés. Le Rav Goren n'a pas encore décidé, mais ça va venir. Tu vois ce que je dis? Et tu sais pourquoi le Rav Goren ne décide pas encore? Parce qu'il a peur du Rav Ovadia aussi. Bien. Alors, s'il n'y a plus de questions, à demain. Hein. On tombe.
Suite du cours Pessah.
Je suppose que vous avez. Prenez la page, vous liez Kadesh ou Khaz Karpas. Vous l'avez ? Montre-moi qu'il y a Gadol. Particulier à cette année où le Seder commence à Motsai Shabbat, ça vous avez appris. Vous savez qu'est-ce qu'on prépare déjà depuis vendredi pour les repas, tout le reste. Donc. Alors, dès qu'on rentre de la tefila, on doit préparer le plateau du seder, qu'on va voir tout de suite. Et le plateau du seder, c'est celui qui donnera le seder, qui doit le préparer. En principe, il est marié, et puis c'est le maître de maison, avec sa femme. C'est-à-dire, on doit préparer le plateau du seder juste en sortant de la synagogue. Et la première chose, c'est le kiddush. Donc, Kadesh, c'est le kiddush de la fête. Ensuite, on se lave les mains sans bracha, c'est urchas. Pourquoi on se lave les mains sans bracha?
On va tremper.
On va tremper. Mais pourquoi sans bracha? Donnez-moi une réponse saine. On fait Netilat Yadayim pour la Motsi. Alors, étant donné qu'on va refaire Netilat Yadayim pour la Motsi, la première fois, on se lave par hygiène, parce qu'on va tremper des aliments, donc on ne dit pas de bracha.
Juste
celui qui donne, oui. Alors là, je vous dirai, bon, je vais voir d'abord le plateau avec vous, et puis ensuite,
comment s'appelle le plateau?
Kéhara.
Kéhara. Alors, en haut, vous avez les trois matzot. À droite, vous avez zéro.
Zéro.
Zéro. Alors que je vous explique, le zéroar, c'est un morceau d'os avec un peu de viande. En principe, on prend une épaule d'agneau, mais s'il y en a pas, il n'y en a pas, c'est pas grave. Vous pouvez même prendre une aile de poulet s'il y a Charles Batsoret, comme on dit, s'il y a la famille. Okay. Ne faites pas comme ces familles qui sont perdues s'ils ne trouvent pas une épaule d'agneau pour mettre sur le CDF. Okay. Vous pouvez prendre n'importe quel os avec un peu de viande. Il faut qu'il soit grillé. De telle sorte qu'on puisse le manger, pas symboliquement. Le zéroar représente quoi? Le Corban Pessah. Très bien. Mais je vous dirai quand. Okay. Bon. Oui, je vous dirai quand. Et ensuite, à gauche, vous avez Betsa. Et Betsa, c'est quoi?